Bonjour et bienvenue dans l'émission Enquête ou Enquête d'Histoire, présentée par Jeanne-Marie. Je suis historienne et j'ai envie de faire revivre le passé de notre département car son histoire est riche et mérite d'être mieux connue. Cette émission de 30 minutes sera mensuelle. J'y accueillerai un intervenant, historien ou archéologue, ou autre à qui je poserai des questions. Bonjour aux auditeurs de Radio NDM. Nous sommes donc aujourd'hui dans la cinquième émission de Enquête d'Histoire ou Enquête d'Histoire, avec comme toujours donc un invité, Didier Vigneault, archéologue, qui était avec nous depuis la première émission. Donc Didier, aujourd'hui tu vas nous parler de commerce dans les Landes, voici 3000 ou même 3500 ans, hein, c'est-à-dire durant l'âge du bronze notamment, mais également plus près de nous durant la période romaine, entre 1500 et 2000 ans. Aujourd'hui, quand nous évoquons le commerce, évidemment nous pensons très vite aux échanges internationaux, à la mondialisation. Est-ce que c'est un phénomène récent ou bien est-ce que l'Antiquité était également confrontée à des échanges de ce type, toute proportion gardée, bien entendu?
Excellente question, mais tout d'abord, bonjour Jeanne-Marie et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Donc pour répondre à ta question, à l'époque, il est possible aujourd'hui d'avoir des biens, des produits ou des aliments qui proviennent de n'importe quelle partie du globe, non sans poser de problèmes environnementaux, notamment dans le cas des transports longue distance. Bah, il faut prendre conscience que cette mondialisation existait déjà à l'époque romaine et même avant, à des échelles différentes. Notamment, je vais prendre pour le cas qui nous intéresse, le sud-ouest de l'actuelle France et aussi les Landes. Dès l'âge du bronze, et plus particulièrement entre 1000 et 800 avant notre ère, on constate la circulation d'objets ou de matières premières, comme le cuivre, l'étain, sur de longues distances. Mais il n'y a pas que les objets qui se déplacent et les matières premières qui se déplacent, les hommes aussi se déplacent, et amenant avec eux des modes culturels, comme par exemple la réalisation de poteries aux formes et aux décors standardisés. Ainsi, à l'âge du bronze moyen, entre 1600 et 1350 avant notre ère, nous avons par exemple les mêmes formes de poteries et de décors qui circulent dans les Landes et sur la pointe du Médoc. Donc ces deux endroits sont distants quand même de 150 km. Les archives de ces poteries dans les Landes sont locales, hein, donc on sait très bien qu'elles ont été extraites localement. Mais les formes et les décors sont communs et montrent une circulation des hommes qui est nécessaire pour s'accaparer ces savoir-faire, pour copier des modes ou de l'art qui provient d'une autre région. Il y a aussi pour cette époque du bronze moyen la découverte de moules de métallurgistes qui prouvent l'importation de cuivre ou d'étain, que l'on ne retrouve pas chez nous bien évidemment, et qui peuvent donc provenir d'Espagne, du Massif central ou encore d'Angleterre. Ces importations impliquent l'existence d'un commerce pour les obtenir, mais on ne connaît pas encore la contrepartie des échanges. On ne sait pas contre quoi on échangeait ces biens. On ne connaît rien encore pour l'instant et on en est au balbutiement des recherches. À l'âge du bronze final, c'est-à-dire entre 1350 et 750 avant notre ère, on observe une standardisation des formes et des décors, notamment sur les poteries, avec ce que l'on retrouve aussi dans la vallée du Rhin et en Suisse. Ce qui là aussi implique encore un déplacement des hommes pour s'approprier ces pratiques culturelles. Et puis, un peu plus tard, dans le temps mais un peu plus proche de nous, au second âge du fer, entre les 4e et 1er siècle avant notre ère, la fabrication locale d'objets, comme par exemple, nous en avons parlé la dernière fois, les bracelets et les fibules de Joulux, prouve l'existence d'un commerce pour obtenir le bronze, soit par acquisition de lingots de bronze, ou soit par acquisition d'objets à recycler, ou encore par acquisition des minerais, le cuivre et l'étain, qui ont servi à réaliser du bronze. Puis, au 1er siècle avant notre ère, il y a quand même des produits qui sont importés d'Italie, comme par exemple du vin italien, qui est contenu dans des amphores fabriquées autour du Vésuve. Là encore, on ne connaît pas la contrepartie de tous ces échanges du second âge du fer. Pour ces périodes pré-romaines dans les Landes, nous ne connaissons aucune trace d'ateliers artisanaux et nous ne connaissons donc pas les productions locales qui pourraient alimenter l'économie.
Alors, pour nous, ces déplacements très lointains sont tout à fait faciles. Mais à l'époque, il ne faut pas oublier quand même que tu évoques des déplacements qui sont assez lointains, hein, quand on parle notamment du cuivre ou d'étain. La route de l'étain, par exemple, qui, elle, passait par la vallée du Rhône, la vallée de la Saône, ou qui venait, d'ailleurs, l'étain venait peut-être d'ailleurs aussi. Hein, de...
Oui, on ne sait pas trop.
On ne sait pas exactement. Hein. Donc, tous ces déplacements demandent évidemment beaucoup de temps, puisqu'ils se faisaient soit à pied, soit à dos d'animaux, ou quand on pouvait, par voie fluviale. Ça demandait donc énormément de temps. Rien à voir avec aujourd'hui, par exemple. Est-ce qu'à l'époque romaine, il y a un changement ?
Ben oui, à l'époque romaine, le phénomène de mondialisation s'accélère, puisque les importations deviennent plus importantes dans les Landes. Jusqu'au IVe siècle, on retrouve exclusivement des poteries dont la diffusion est bornée entre le nord de l'Espagne et le sud Gironde. Ces céramiques sont présentes sur absolument tous les sites romains que l'on a découverts, mais on ne connaît toujours pas leurs ateliers de production.
Alors il y a un exemple intéressant, c'est celui du vin, puisque notre pays est depuis longtemps un grand producteur de ce breuvage. Or, c'est une culture importée à l'origine. Importée d'où ?
Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des importations de vin qui venaient d'Italie à l'origine, hein, mais pour continuer dans les importations, le vin à l'époque romaine est toujours importé dans des amphores, avec du vin italien jusqu'au 1er siècle de notre ère. Puis ensuite, c'est l'Espagne qui en devient le principal exportateur jusqu'au 2e siècle, période où les amphores vinaires disparaissent. Elles sont sans doute remplacées par les tonneaux, mais pour l'instant, nous n'en avons absolument aucune preuve. À la fin de la période romaine, vers le 4e, 5e siècle, on trouve aussi quelques amphores qui proviennent de la bande de Gaza. C'est d'actualité, mais on a vraiment des amphores qui proviennent de la bande de Gaza, qui sont retrouvées ici dans les Landes. L'Espagne romaine nous exporte aussi d'autres produits, comme de l'huile d'olive en amphore, ou aussi des vases décorés fabriqués avec une pâte que l'on appelle de la sigillée. Cette pâte était connue aussi avec des pâtes qui provenaient d'Italie, mais là, à partir du 2-3e siècle, on sent que l'Espagne devient un grand importateur de ce type de céramique. Ce même type de vase peut aussi provenir du sud de la France, plus précisément des ateliers de Montance, qui sont situés autour d'Arles. Plus rarement, d'autres vases proviennent du centre de la France, comme par exemple des sigillés de Lezoux, ou les vases qui sont fabriqués en Charente-Maritime. On retrouve aussi des vases à sel qui proviennent du Béarn, le sel étant un élément fondamental pour la conservation des aliments. Comme on peut le voir, la diversité des céramiques montre des importations qui proviennent d'absolument n'importe quelle localisation autour de l'Empire romain.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples d'objets importés parce que nous n'avons pas forcément les matières premières pour les fabriquer ?
Ah oui, il y a notamment les objets métalliques, hein, et plus précisément les monnaies et les objets de parure, hein, comme les fibules qui sont des sortes d'épingles à nourrice, hein, ou des bracelets. Tous ces objets circulent aussi dans les Landes, mais sauf exception, ce sont tous des objets qui sont fabriqués dans des ateliers qui sont situés en dehors des Landes et donc importés chez nous. Il en va de même pour le mobilier en verre qui est obligatoirement importé dans les Landes, puisque à ce jour, on n'a pas retrouvé d'atelier de verrier de l'époque romaine dans les Landes. À l'époque romaine, contrairement aux époques passées, on constate qu'il y a une majorité d'importations, au moins pour les objets qui sont aujourd'hui conservés, hein, ce qui implique de facto une économie pour acquérir ces biens. Comment, par exemple, un habitat visiblement isolé dans le paysage a-t-il les moyens d'acquérir de la vaisselle ou du mobilier métallique ? Entre autres termes, quelle était l'origine des revenus de ses habitants pour pratiquer des échanges et du commerce ? Nous tenterons d'y répondre plus tard dans notre échange.
Eh bien justement, c'est le moment de la pause. Alors, c'est la pause musicale de l'émission avec un morceau de musique qui est donc proposé par Didier. Qu'est-ce que tu as choisi ?
Bah, je vais vous proposer d'entendre une chanteuse que l'on n'a pas trop l'habitude d'écouter chez nous. Pourtant, elle est très connue au Canada. Elle s'appelle Gilnette Reynaud. Et le titre de sa chanson, c'est « Je serai là ».
Eh bien, alors on sera là pour l'écouter.
Le chemin n'est pas toujours facile, tu l'apprendras. Mon enfant, si douce et si naïve, écoute-moi. L'amitié est parfois trop fragile que ce qu'on voit. L'amour n'est souvent qu'une simple idée, et c'est comme ça. Et ça viendra. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent ne les écoutent pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là. Un beau jour je te verrai partir, tu aimeras. Personne ne pourra te retenir, pas même moi. Puis un jour tu me feras vieillir, tu enfanteras. Alors ce sera à toi de dire tous ces mots-là. Il le faudra. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent ne les écoutent pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là. Ainsi va la vie et tout continue. C'est comme une histoire qui ne s'arrête plus. Vis ta vie, n'attends plus. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent ne les écoutent pas. Et si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là.
Merci.
Regarde.
Merci.
Regarde.
Merci. Merci beaucoup.
Nous reprenons le cours de notre émission, je rappelle, Enquête ou En quête d'histoire avec Didier Vigneault, archéologue, qui aujourd'hui nous a parlé notamment du commerce, des objets qui peuvent être produits dans les Landes, mais surtout des objets qui sont importés, parce que finalement on ne connaît pas entièrement les objets qui sont fabriqués ici sur place. Il y en a peut-être certains qui nous échappent, tout simplement. Nous avons vu que les choses ont évolué donc, au niveau commercial entre l'âge du bronze, l'âge du fer et l'époque romaine. Mais je rappelle que dans l'époque romaine, nous sommes dans un contexte pratiquement de mondialisation à l'époque, puisque l'Empire romain est un empire énorme, dont le centre évidemment est Rome, Rome qu'il faut approvisionner à tout prix, et qui reçoit notamment, ben, par exemple, du blé pour toute sa population, nourrir sa population, du blé d'Espagne, du blé d'Italie, du blé de Gaule, et puis d'autres encore, d'autres produits, bien entendu, voilà. Par conséquent, alors, nous avons quand même une interrogation, c'est est-ce qu'il y avait des ateliers de production dans les Landes ?
Eh bien oui, et comme tu le disais tout à l'heure, il faut alimenter Rome, il faut alimenter tout le pouvoir romain, il faut alimenter aussi le fonctionnement de tout cet empire. Et dans les Landes, on avait quand même quelques ateliers qui ont été découverts. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure des ateliers de production de garum, mais on a aussi trouvé d'autres ateliers dont certains ont produit à une échelle industrielle. et ont donc exporté leur production, ce qui a forcément alimenté l'économie locale. Alors, nous avons découvert deux ateliers de production de fer, hein, qui produisent à partir du fer des marais, un atelier à Beilong et l'autre à Le L'Œil. Nous avons aussi découvert trois tuileries, deux à Saint-Jean et une à Rungos. Ces tuileries, comme leur nom l'indique, ont fabriqué des tuiles à l'époque romaine.
Alors moi, j'ai une question quand même. Qu'est-ce que c'est que le fer des marais ?
Ah, le fer des marais, c'est un grès extrêmement ferrugineux, hein, qui contient beaucoup de métal et qui a servi à produire du fer dans notre région. Donc, pour continuer sur les ateliers d'exploitation et les ateliers de production, nous avons découvert en plus des ateliers d'exploitation des ressources de la mer, que l'on appelle en archéologie des amas coquillés, hein, qui ont servi à fabriquer du garum. Ces ateliers ont été découverts sur la côte. Et cette sauce, le garum, est extrêmement répandue dans l'Empire romain.
Alors, quel goût avec cette sauce qui était effectivement aussi célèbre que notre ketchup contemporain ?
Ah oui, dans tous les textes romains, enfin dans beaucoup de textes romains notamment, on nous parle du fameux garum. Alors personnellement, je n'ai jamais goûté ce garum. Hein. Il y a certains spécialistes qui ont réussi à reproduire cette recette. Mais d'après le goût, cela ressemble à la sauce de poisson vietnamienne, le Nhoc Nam. C'est une sauce qui est assez connue et qui visiblement se rapproche du garum.
Donc c'est une sauce très salée.
C'est une sauce très salée.
Très salée,
oui.
Puisque en plus elle était fabriquée effectivement à partir de produits de la mer. Et puisqu'on parle de produits de la mer, bon, on ne connaît pas évidemment du tout ce que pouvait être la production de poissons séchés, mais on peut imaginer qu'il y en avait. Du poisson salé plutôt. Séché et salé d'ailleurs.
Ça bah, il y avait les deux. Hein. Les il y deux. Avait du poisson voilà. Fumé aussi. Hein,
et fumé. Et fumé sans doute.
Qui est beaucoup plus voilà. Simple à transporter hein, pour des questions de conservation aussi. Hein. Donc on pouvait avoir tous ces types de produits qui existaient à l'époque romaine, que l'on pouvait retrouver sur nos côtes et puis à l'intérieur des terres, dans les landes.
Et alors il y avait aussi, certainement, un grand commerce des huîtres. Alors évidemment on ne produit pas des huîtres dans les landes, mais il y avait quand même la traversée des landes par le commerce des huîtres, parce qu'on en a retrouvé des huîtres, même dans les Pyrénées-Atlantiques, dans certaines villas. On en a retrouvé à Séviac énormément, donc elles provenaient de la côte.
Bien
donc il fallait traverser, ouais. Effectivement, notre territoire.
Oui, et puis on se pose des questions aussi sur la production d'huîtres sur nos côtes, puisque ce qu'on appelle le trait de côte, c'est-à-dire la limite entre la mer et la terre, a évolué depuis l'époque romaine. On se demande s'il n'y avait pas des parcs à huîtres qui pouvaient exister sur notre côte, notamment au large Cap Breton. Ça, c'est une question que l'on a et j'espère qu'un jour, on pourra y répondre.
Alors, en dehors des ateliers, des produits dérivés de la mer, est-ce qu'il y avait d'autres types d'ateliers qui pouvaient être d'ailleurs localisés au secteur côtier ou un petit peu moins, mais surtout côtier ?
Alors, on a découvert d'autres ateliers qui montrent une très, très grosse industrie, qui est peut-être l'industrie la plus importante de l'époque romaine dans les Landes, qui est celle de la production de goudron. Mais contrairement à ce que tout le monde pense, cette production n'est pas uniquement côtière. Hein. On la retrouve à l'intérieur des terres, notamment dans le bassin de la Leyre. Mais ces ateliers-là, je ne vais pas trop m'attarder dessus, puisque nous en parlerons dans une prochaine émission. Mais il faut savoir quand même que cette industrie a été extrêmement importante dans les Landes. Mais comme vous l'avez entendu tout à l'heure, les Landes romaines avaient des ateliers de production et des communautés locales exportaient donc des produits. Certains pouvaient être destinés aux marchés locaux, à des sites plus éloignés comme le goudron et le garum hein, qui pouvaient être exportés vers Bordeaux. Ou alors on pouvait exporter aussi vers d'autres pays puisque on a découvert du goudron landais dans une épave qui a été coulée sur l'île anglo-normande de Jersey. Donc on pouvait exporter ces produits, hein, il n'y a pas de raison.
Alors, qui dit goudron dit forcément industrie de construction de bateaux, puisque ça servait notamment au calfatage des bateaux, hein, c'est ça.
Alors, le goudron avait de multiples usages et on pouvait l'utiliser dans de multiples domaines. On pense bien évidemment au calfatage des navires, hein, d'où la destination de Bordeaux qui abritait quand même un port. Mais pas que cela, puisque le goudron était aussi utilisé pour poisser, c'est-à-dire étanchéifier des poteries. On utilisait aussi comme colle et on utilisait aussi à petite dose, hein, dans ce qu'on appelle la pharmacopée, c'est-à-dire comme produit pharmaceutique. Ce ne sont que quelques exemples.
Alors, bon, forcément, le goudron, ça amène à la forêt de pins. Nous avions des forêts de pins, mais est-ce qu'il y avait aussi d'autres essences dans les Landes ?
Bien oui, comme nous l'avons abordé dans d'autres émissions, nous savons qu'il y avait aussi une forêt de chênes qui existait toujours à l'époque romaine. Cette forêt, par l'exploitation du bois, mais aussi par l'exploitation des autres ressources, comme le gibier ou le commerce des fourrures, a assurément généré une économie. Cela permet d'expliquer ce que nous mentionnions précédemment, c'est-à-dire la présence d'habitats isolés dans le paysage avec des biens de consommation achetés ou échangés. Et nous aurions donc là des habitats de forestiers ou de chasseurs, ce qui est une explication pour ces habitats, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont isolés dans le paysage. Mais tous les biens, qu'ils soient importés ou exportés, étaient en majorité acheminés par le réseau de voies terrestres, qui était important dans les Landes, on l'a découvert notamment récemment, mais aussi par le réseau fluvial, comme par exemple l'Adour, l'Aller, le Besse, l'Estrégon, etc. Comme nous venons de le découvrir dans cette émission, et contrairement aux idées répandues il y a encore 20 ans, faisant de notre territoire un désert à tous les niveaux, le commerce existait dans les Landes à l'époque romaine, et nous venons juste de vous présenter une partie de celui-ci, puisqu'il existe d'autres économies invisibles, comme les taxes, les péages, la vente de fumures, la vente de miel, etc.
Eh bien Didier, merci beaucoup de ce panorama sur la mondialisation à l'époque antique qui existe en fait depuis que l'homme est l'homme, hein, tout simplement. Ouais, le besoin sûr. D'échanger, le besoin de découvrir, de rencontrer d'autres communautés, d'autres cultures. Et à ce moment-là, donc la curiosité, l'envie de partager en revenant chez soi donc différents objets. Eh bien, nous avons fait effectivement un petit peu le tour de cette émission. En te remerciant beaucoup, nous aurons la prochaine fois, au mois de mars, une émission qui est dédiée donc à voyager, c'est ça ?
Et transporter dans les Landes au cours de la période romaine, oui, c'était très voyager bien. Et transporter.
Très bien, eh bien, merci Didier, merci à nos auditeurs pour leur patience, et donc, Adichat, ça tout le monde.
Au revoir tout le monde, et à bientôt.